La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine.
Tesla et les autres voitures électriques, moins volées que la moyenne. Chez GM, on va se concentrer sur les tout électriques plutôt que les hybrides. La STL achète 10 autobus électriques. Il y a plus de bornes de recharge que de stations-service en Grande-Bretagne. Le circuit électrique et Desjardins annonce 4 bornes rapides dans le complexe Desjardins. C'est le lancement du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Voiture électrique au féminin, on parle de la Porsche Panamera. Avec Fred Saint-Laurent, on analyse les statistiques de vente des véhicules électriques pour la première moitié de 2019. Tout ça et bien plus encore dans le 62e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien mes amis, on revient de vacances, c'est le premier show, le premier podcast après les vacances estivales. J'espère que vous allez bien. Vous allez sans doute remarquer un paquet de changements au niveau du podcast, au niveau du son, au niveau des invités, de la façon dont ça va se passer. Écoutez, pendant l'été, on a refait complètement le studio chez moi. Là, j'avais une toute petite, un tout petit setup d'enregistrement tout à fait artisanal. Ça donnait quand même quelque chose de potable. Je pense que vous avez pu apprécier dans les 60 quelques épisodes précédents. Mais là, on a fait un saut majeur. J'ai vraiment une pièce là, chez moi, dans le sous-sol, insonorisé, un studio avec qui est installé de façon permanente, en fait, où je peux recevoir 3 invités, donc on peut être 4 personnes en même temps à participer avec également des gens qui peuvent se joindre à distance, que ce soit par téléphone ou par Skype. Écoutez, l'équipement, tout a été changé, les microphones, la console, les logiciels d'enregistrement. On vient vraiment de faire un saut dans les ligues majeures. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main, que ce soit au niveau de la technique, au niveau des conseils. Là, on est capable en plus, avec l'équipement que j'ai là, je pourrais aller faire des émissions qui seront pas nécessairement dans le studio. Donc, tout est transportable très facilement. La console me permet d'enregistrer là, directement dans la console en multipiste. Donc, c'est vraiment là un beau setup pour être capable de faire des prochains épisodes qui vont être parfois donc un peu plus traditionnel, donc en studio avec des invités, tout ça, mais d'autres fois peut-être un peu plus libre dans lors d'événements particuliers, par exemple. Donc ça va permettre là d'être un peu partout puis d'avoir le feeling là de l'enregistrement live sur le terrain. Beaucoup de choses se sont produites également pendant l'été. Il est arrivé tout plein d'événements, en fait. Je dirais, entre autres, la prolifération des superstations du circuit électrique. Donc, par superstation, on entend des endroits où plusieurs bornes de recharge rapide sont installées, là, 2 ou 4, souvent 4 bornes de recharge rapide. Vous avez sans doute vu le principe. Il y en a maintenant quelques-unes qui sont arrivées avec un look aussi différent. Donc, visuellement, c'est très beau. C'est souvent super bien situé. Donc, ça change beaucoup la donne pour les électromobilistes qui voyagent, qui font de longues distances et qui ont besoin le long des autoroutes de se recharger rapidement avec la certitude ou un peu plus de garantie qu'en arrêtant, c'est pas juste une borne qui va être déjà utilisée. Donc, on arrive à 4 bornes. Les probabilités qu'on ait une de libre tout de suite sont quand même assez grandes. Donc, ça, c'est une grosse amélioration qui est arrivée pendant l'été. Mon Dieu, que s'est-il passé d'autre? Il y a également eu nos statistiques. On va en parler amplement aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer sur le sujet, mais beaucoup de voitures électriques, la subvention fédérale a fait son œuvre. Ça a également mis en relief le manque criant de disponibilité chez les manufacturiers. Donc, pour presque tous les manufacturiers. Je pense à l'exception peut-être de la Chevrolet Bolt qui est un peu plus disponible, mais tous les autres véhicules, c'était très difficile d'y trouver, très difficile de se les procurer. Donc, un problème criant de disponibilité qui ne fait que nous rappeler l'importance de la loi zéro émission et du fait que cette loi-là devrait et devra avoir beaucoup plus de mordant si on veut être capable de répondre à la demande actuellement du public québécois pour les voitures électriques de tout genre. Alors, sans plus tarder, écoutons les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Un nouveau rapport du Highway Loss Data Institute indique que les véhicules de Tesla sont environ 90 % moins susceptibles d'être volés que la moyenne. Et on a également indiqué que sur 115 Tesla qui avaient été volés, 112 avaient été retrouvés, c'est presque la totalité. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats. Premièrement, les propriétaires peuvent suivre la voiture grâce à l'application de Tesla et les voleurs qui pouvaient autrefois désactiver cette fonction ne peuvent plus le faire maintenant puisqu'un mot de passe est exigé pour désactiver le suivi. Ça rend le vol beaucoup plus ardu. Une deuxième raison de ce faible taux de vol est liée au fait qu'un véhicule électrique doit souvent être branché, donc proche d'une résidence, près d'une maison, donc plus difficile à voler. Et c'est le cas pour tous les véhicules électriques, tous fabricants confondus, qui ont un taux de réclamation pour vol nettement inférieur aux véhicules comparables à combustion. Selon un nouveau rapport sur les véhicules électriques par Bloomberg New Energy Finance, les ventes de voitures neuves électriques dépasseront celles des modèles à combustion interne d'ici 2037. Le rapport, qui est intitulé « Electric Vehicle Outlook 2019 », prévoit que 30 % des véhicules dans le monde seront équipés de moteurs électriques d'ici 2040. Elle prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques atteindront 10 millions en 2025, 28 millions en 2030 et 56 millions en 2040. La décision de General Motors de cesser de produire la très populaire Chevrolet Volt était révélatrice d'une stratégie à long terme consistant à se concentrer sur des véhicules tout électriques plutôt qu'hybrides. Dans une récente entrevue avec le Wall Street Journal, le président de la société a expliqué que la décision du constructeur automobile de cesser de produire des hybrides avec pour objectif de canaliser ses investissements écologiques vers des voitures tout électriques car ils étaient convaincus que maintenant, ils prendraient éventuellement la relève. « Si j'avais un dollar de plus à investir, je le dépenserais sur un véhicule hybride? Pas du tout. Où devrais-je le dépenser? C'est sur une valeur sûre pour perfectionner plus rapidement et mieux que quiconque le marché de la voiture électrique », a déclaré le PDG, M. Roese. Le Wall Street Journal note aussi que cette stratégie s'écarte des autres grands acteurs de l'industrie tels que Toyota et Ford. Pour Toyota, les véhicules hybrides sont essentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre car ils sont moins dispendieux à produire que les véhicules électriques, donc se vendent moins cher et en plus grand nombre. Tant qu'à Ford, ils envisagent maintenant de produire massivement des véhicules tout électriques, mais ils prévoient également certains modèles hybrides comme le prochain F-150 hybride. Un ingénieur de Ford a expliqué que la société ne souhaitait pas que tous les acheteurs s'en aillent vers des véhicules électriques, mais voulait plutôt qu'ils se tournent vers des véhicules plus écologiques. Un véhicule tout électrique est toujours plus dispendieux qu'un véhicule hybride et l'autonomie est encore limitée. Reste à voir ce que les nouvelles technologies nous mettra entre les pattes dans les prochains mois et les prochaines années pour faire mentir les ingénieurs de Ford. La Société de transport de Laval a fait l'acquisition de 10 autobus entièrement électriques. Il s'agit du plus important contrat signé au Québec pour ce genre de véhicule. La Ville a dévoilé les premiers autobus de sa flotte 100% électriques disposant d'une autonomie de 250 km. Les 10 véhicules ont été achetés grâce au financement du gouvernement provincial et fédéral et le montant de l'aide s'élève à 9,6 millions de dollars. Les bornes électriques sont maintenant plus nombreuses que les stations-service en Grande-Bretagne. On sait qu'il n'est pas rare que des gens annoncent qu'ils se convertiront au tout électrique quand il y aura plus de bornes de recharge que de stations-service. Alors, ces choses faites au Royaume-Uni, ce n'est plus une excuse. Une partie de cette équation est déjà atteinte au Royaume-Uni et selon Nissan, il existe 9300 stations de recharge publiques contre 8400 stations-service. Le nombre de stations-service a légèrement diminué au Royaume-Uni au cours des 50 dernières années et certains endroits sont en train de devenir des déserts pétroliers. Qui l'eût cru? Par exemple, il n'y a que 4 stations-service dans la zone de péage urbain de Londres, tandis que le Transport for London a déjà installé 1000 bornes de recharge l'été dernier. Desjardins et Hydro-Québec ont annoncé dans les derniers jours l'installation au complexe Desjardins de la première superstation de recharge du circuit électrique en milieu urbain. Cette superstation, composée de 4 bornes rapides de 50 kW, permettra de servir un très large bassin d'utilisateurs dans cet emplacement névralgique qu'est le quartier des spectacles en plein cœur de Montréal. Ce projet de superstation vient s'ajouter aux 200 bornes qui seront installées d'ici 2021 dans une grande partie du réseau des caisses du Québec, des caisses populaires Desjardins, on entend, et à l'est de l'Ontario. Et ce, en partenariat avec Hydro-Québec et le circuit électrique. Elles viendront renforcer le réseau existant du circuit électrique ainsi que d'accélérer l'adoption par les citoyens de la voiture électrique. Dans quelques semaines à peine, on pourra assister à la 3e édition du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Un jeune salon, mais qui a su se démarquer par sa proactivité et surtout par le fait que le salon est organisé par un regroupement de concessionnaires qui croient en l'électromobilité dans la région de Saint-Hyacinthe. Alors, nous étions présents à la conférence de presse de lancement. Je vous propose d'écouter l'allocution de Daniel Breton.
Bonjour tout le monde. Pour une troisième année, je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous parce que c'est important que les gens comprennent à quel point la part de l'Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe a été fondamentale dans la création et la pérennisation de ce salon-là, parce que il n'y a aucun autre endroit au Canada où on voit un regroupement de concessionnaires qui se sont mis ensemble pour organiser un salon du véhicule électrique. C'est pas arrivé nulle part ailleurs. Donc c'est unique. On peut être fier de ça. Et le résultat de ça, ça fait en sorte que, per capita, il se vend aujourd'hui plus de véhicules hybrides rechargeables électriques à Saint-Hyacinthe qui s'en vend à Québec, à Laval, à Montréal. Donc, il y a de quoi être vraiment très fier de ça quand on regarde les statistiques de vente. Vous savez, on les a régulièrement, on les analyse. Et aussi, on est les premiers en Montérégie. Ça, il y a de quoi être très fier. C'est toute une série d'engagements pour faire en sorte que les gens d'affaires, les concessionnaires ont dit, nous, on va poser un geste de plus, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'on a dit, on va aller vers plus de véhicules électriques, on va y aller dans toutes les petites mesures qui vont faire en sorte d'améliorer l'environnement, mais aussi la santé des citoyens du Québec. Donc, concrètement, ça veut dire qu'au salon, on va poser des gestes concrets tels que, il n'y aura pas de bouteilles de plastique, comme vous pouvez le voir dans la conférence de presse, il n'y a pas de bouteilles de plastique, ce sont des pichets d'eau avec des verres en vitre. Donc, pas de plastique à usage unique. On va utiliser le plus possible des aliments locaux et si possible de bio. Écoutez, on est dans le grenier du Québec, à Saint-Hyacinthe. Il faut encourager nos producteurs locaux. Ça tombe sous le sens, on dirait, mais l'idée, c'est de dire de façon concrète et d'agir en toute cohérence avec notre vision. On va évidemment privilégier recyclage et compost et biométhanisation. Ça, Saint-Hyacinthe, c'est la mecque de la biométhanisation, vous le savez. En plus, on va aller vers la compensation carbone. Pour ceux qui l'ignorent, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir visiter le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Certaines de ces personnes-là vont venir en voiture électrique, d'autres en voiture à essence. Donc, pendant le salon, on va faire le décompte à savoir qui est venu en voiture à essence, combien de kilomètres ils ont fait, donc combien de gaz à effet de serre ils ont émis. Et une fois qu'on aura calculé toutes les émissions de gaz à effet de serre, ben, le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe va compenser partiellement les émissions de gaz à effet de serre pour les visiteurs et vont inviter les visiteurs à en faire autant. Et ça va se faire via Carbone Montréal, justement, qui est associé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Tout ça dans le but de montrer l'exemple et d'inspirer les visiteurs à poser un geste, deux gestes, trois gestes, que ce soit pour leur véhicule, leur façon de s'alimenter ou encore les fameuses bouteilles d'eau qu'on va cesser d'utiliser, des bouteilles d'eau à usage unique. Donc, c'est une première canadienne, une autre première canadienne pour le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, organisée par l'Association des concessionnaires de Saint-Hyacinthe avec la collaboration de Desjardins et Electrol. Moi, je vais vous dire, il y a de quoi être extrêmement fier à Saint-Hyacinthe ce matin. Merci.
Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
Ici Louis Bernard, du Salon du véhicule électrique de Montréal. Vous écoutez Silence, on roule.
Un élément qui est toujours très prisé des amateurs de voitures électriques et même des médias, je dirais, c'est les statistiques que l'AVEC construit à tous les 3 mois ou à peu près 3-4 mois. Là, on achète les bases de données de la Société de l'assurance automobile du Québec, donc c'est un paquet de chiffres. Et c'est à partir de ce paquet de chiffres-là qu'on essaie de faire parler les chiffres et toute la science, toute l'art est là. Et aujourd'hui, en studio, je suis très content parce que on a l'un de nos deux statisticiens. Je ne sais pas si on peut on peut t'appeler comme ça. Mais il y a trois personnes. Il y a Simon-Pierre Rioux qui participe à l'exercice. Mais généralement, là, le gros du travail est fait par mes collègues Jean-François Morissette. Et Jean-François, aujourd'hui, il n'était pas là. Il était
en camping,
oui, c'est ça. Mais on a la chance d'avoir l'illustre.
L'illustre Frédéric Saint-Laurent.
L'illustre Frédéric Saint-Laurent, oui, qui fait qui collige les chiffres et qui fait. Les deux, donc Jean-François et Frédéric, le font parler les chiffres. Et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. On a publié une version, la dernière version, juste avant les vacances, donc qui comportait là, le trimestre aller jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, on avait avril, mai, juin. Donc, on le sort toujours au mois de juillet, le temps de faire nos calculs, mais c'est des données jusqu'au mois de juin. Et ça nous a permis de faire un paquet de constatations. La première, c'est qu'on a enfin dépassé le cap des 50 000 voitures.
Et oui, exactement. Et le 50 000 voitures, finalement, on est à la moitié de notre objectif de 100 000 véhicules électriques
ouais.
pour la fin 2020. Qui, quand on regarde ça le moindrement, c'est à nos portes.
Oui, c'est la courbe de progression se maintient assez bien. C'est-à-dire qu'on ne double pas, mais presque à toutes les années. Là.
Oui, si on regarde, si on suit la projection d'une courbe exponentielle, on devrait y être. Mais le dernier trimestre nous a permis de prendre un petit peu d'avance, mais il n'y a pas beaucoup de marge pour ralentir.
Non, exactement. On va parler de tous les facteurs qui influencent ça dans quelques instants. Mais parlons pour l'instant là, de cette augmentation-là. Donc, on est rendu à combien de véhicules?
On est présentement rendu à 52 556 véhicules. Il s'agit d'une progression de 8634 en 3 mois. Si on ramène ça sur une base... Ben, okay, pour ces 3 mois-là, ça veut dire c'est une progression de 19,7% de façon annualisée, c'est-à-dire jusqu'à juin, à partir de juin de l'an passé jusqu'à juin de cette année. C'est une progression de 74%. Si on remet ça d'une autre façon, ça veut dire pendant ces 3 mois-là, il y a eu 2878 véhicules de vendus par mois ou 95 par jour. Quand on regarde ça de même, c'est quand même intéressant.
C'est pas mal, 95 par jour, puis on sait que c'est pas tous les concessionnaires qui vendent du véhicule électrique, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, ce que tu sembles nous dire, Frédéric, c'est que donc dans un an, là, on a gagné 75% une augmentation de 75% de véhicules, mais étant donné que d'année en année, il y en a de plus en plus, le pourcentage de l'année passée, si on suppose que c'était aussi 75%, c'est 75% qui représente moins de voitures que cette année. Donc, plus ça va. Si on avait encore 75% l'année prochaine, par exemple, ça serait 75% d'un nombre absolu de véhicules beaucoup plus grand. Donc,
exactement.
C'est quand même une croissance. Et c'est là, je pense, qu'il est le nerf de la guerre. Souvent, en entrevue, les gens semblent dire « Ouais, ça croît à peu près au même taux d'année en année. Ouais, mais si on augmente de 75% toutes les années, le nombre de véhicules sur les routes est beaucoup plus grand d'une année à l'autre. » C'est ce que ça veut dire.
Oui, juste pour m'en venir ici, c'est okay, j'ai passé par le pont de la 25, mais j'ai croisé tellement de véhicules électriques, ça faisait chaud au cœur.
Ben, si t'étais un fin observateur, juste sur ma rue, il y en a 7.
Ah, OK.
On est 7, puis c'est pas une grosse rue. Tu me diras qu'il y a eu un facteur... il y a quelqu'un qui a fait de la promotion.
Exactement, ils ont ça, un très bon...
Oui, il y a un porte-parole qui a fait de la promotion. Mais effectivement, ça croît beaucoup. Donc, c'est combien de véhicules de plus, là? Donc, si on regarde dans la dernière année, c'est 22 000 voitures électriques de plus sur les routes.
C'est ça, c'est 20... Il y a des poussières, là, mais c'est, en gros, ça, c'est 22 000 véhicules de plus électriques sur nos routes en un an. Et pour donner une idée, ce 22 000-là, ça correspond à tout ce qui a été, ben, ça correspond au nombre total de véhicules sur nos routes à la fin 2017. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en avait juste 22 000 et là, on vient d'en vendre 22 000 en seulement un an. Et ce chiffre-là de 2017, on l'avait commencé en 2011. C'est-à-dire de 2011 à 2017, c'est à peu près vendu autant de véhicules que dans la dernière année.
OK, ça donne une bonne idée. Ça illustre bien cette croissance-là. Donc, on a eu un bon trimestre. Le trimestre a été, et on va en parler dans quelques instants, ponctué par un élément important qui est l'arrivée en vigueur d'une subvention supplémentaire, la subvention fédérale de 5 000 $ qui s'ajoute aux 8 000 $ Cette subvention-là a forcément eu un impact, elle a sûrement eu un effet. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un trimestre record ou non?
Je dirais le trimestre en tant que tel, au complet, non. C'est pas un trimestre record. Enfin, l'année passée, au même moment, pour le même trimestre, c'est-à-dire le trimestre qui se terminait aussi fin juin 2018, la progression avait été de 23,7% comparativement au trimestre précédent. Bien, comparativement au nombre de véhicules accumulés jusqu'au début de ce trimestre-là. Alors que cette année, ça a été seulement, donnant en guillemets, c'est pas si mauvais que ça, mais ça pourrait être mieux, ça a été seulement 19,7. Okay. Donc, 4% de progression de moins que l'année passée.
Okay.
En revanche, grâce, on a les chiffres d'Électromobilité Canada pour le total de véhicules, pas toute la fine subdivision comme on arrive à avoir avec nos chiffres de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais on peut voir... En fait, il faut se rappeler un peu ce qui s'est passé. L'incitatif fédéral a été annoncé à peu près à la mi-mars, mais rentrait seulement en fonction le 1er mai. Donc, il y a eu avril au complet que le programme n'était pas actif.
Le programme n'était pas actif, mais les gens savaient que ça s'en venait.
Exactement.
Donc, j'ai l'intention de m'acheter une auto. Je sais qu'il y a une subvention de plusieurs milliers de dollars qui arrive. C'est imminent. Je vais retenir mon achat jusqu'à temps que ce soit en vigueur. Je ne perdrai pas ces milliers de dollars-là.
On a bien beau sauver de l'essence, mais pour sauver 5 000 $ d'essence mois,
c'est
il
beaucoup.
Faut rouler.
Ouais, ouais.
Et justement, on voit en fait qu'en mars, en février au Québec, c'était vendu 1300 véhicules. En mars, 1560. Après ça, en avril, ça l'a clairement descendu. De février à mars, on aurait pu s'attendre un peu à une meilleure progression avec le printemps qui arrive, mais ça a été un peu timide, probablement à cause de la moitié de mars a été ralenti. En avril, il y en a eu moins, à 1280. Et après ça, en mai, dès que le programme est rentré en force, on a vu que c'est passé de 1280 à 5243.
Wow.
Donc, finalement, presque quatre fois, peut-être même
quadruplé,
un peu plus
de quadruplé. Ouais.
Exactement. Donc, le monde a clairement retenu leur achat pour tout acheter.
Ah oui, et les concessionnaires auraient pu te le confirmer sans même avoir les chiffres. Eux voyaient toute leur vente mise sur la glace. Puis ça a été le mois de mars, fin mars, avril, là, vraiment des mois désastreux pour eux. Donc, ça a eu un effet boule de neige. Mais malgré ça, puis moi, c'est un peu la réflexion que je me fais... C'est que l'an passé, si on ne regarde pas le chiffre absolu en termes de véhicules, mais on regarde le pourcentage d'augmentation, l'année passée, pour le même trimestre, pas de subvention fédérale, on a eu un pourcentage d'augmentation plus grand. Mais l'année passée, on avait un phénomène qui était une disponibilité des véhicules artificielle, mais une disponibilité accrue due aux véhicules ontariens qui ont... La subvention a été retirée en Ontario, les véhicules sont arrivés au Québec, donc on avait de l'inventaire chez les concessionnaires. C'est donc dire que... De la disponibilité de véhicules a eu plus d'impact sur le pourcentage d'augmentation que l'arrivée de la subvention, somme toute. Donc, faisons juste imaginer que les deux auraient pu arriver en même temps, c'est-à-dire que l'Ontario retire sa subvention la même année que la subvention fédérale arrive. Donc, si on avait eu cette année la disponibilité des véhicules de l'an passé, on aurait vendu encore beaucoup plus de véhicules qu'on en a vendus là. C'est un peu ce qu'on peut remarquer. Mais cette année, n'ayant pas eu ce surcroît-là de véhicules disponibles, les gens se sont garochés au mois de mai. On l'a dit un peu plus de quatre fois là, ce qui s'était vendu au mois d'avril. Mais il n'y avait quand même pas beaucoup de disponibilité chez les concessionnaires. Ça n'a donc pas dû durer longtemps, ce taux-là de vente là, de plus de 5 000 par mois.
C'est effectivement ce qu'on peut voir dans ces chiffres-là. Parce que tout de suite après mai, il y a eu un nombre record à 5243. Juin a tombé même en bas de la moitié à 2188. Puis ça correspond aussi, j'ai fait quelques événements cet été, le nombre de personnes qui me disent « Ah, j'attends un certain modèle, j'en ai pour X mois d'attente. » Même dans un certain cas, la personne me dit « Je n'ai pour un an et plus d'attente. » Donc, ouais. Il y a énormément de modèles que le monde, il faut croire qu'il y en a beaucoup qui en veulent, ou qu'il y a vraiment zéro disponibilité, un des deux, mais il y a beaucoup d'attentes sur beaucoup de modèles.
Oh, la très grande majorité, même, je dirais. Écoute, si on faisait une analyse un peu plus orientée vers les modèles de véhicules maintenant et qu'on regardait un peu la position des véhicules par modèle, à quoi ça ressemble actuellement?
Je dirais la position des véhicules par modèle vient qu'à se refléter sur une autre statistique un petit peu plus globale, juste avant d'aller dans la subdivision, qui est le nombre de véhicules 100% électriques versus hybrides rechargeables.
Ouais.
Depuis le début, justement, les hybrides rechargeables étaient les plus populaires, mais les 100% électriques remontaient, et on vient de franchir le cap des 50%. Donc maintenant, ce sont les véhicules 100% électriques qui sont rendus... les plus populaires. Pas par beaucoup, on parle de 50.04 versus 49.96, mais malgré tout, ils viennent de franchir le cap des 50%.
OK.
Au niveau des subdivisions par modèle, il n'y a pas eu de changement drastique pour les deux premiers, c'est-à-dire la Volt continue son,